Chapitre 10, Extra Drive, sur l'une de ces collines qui entourent Nice du plus beau décor qui soit, s'élève entre le vallon de la Mantega et le vallon de Saint-Sylvestre un hôtel colossal d'où l'on domine la ville et la baie merveilleuse des Anges. Un monde s'y presse, venu de toutes parts, et c'est la cohue de toutes les classes et de toutes les nations. Le soir même de ce samedi où Lupin, Grognard et le Balu s'enfonçaient en Italie, Clarisse Mergy entrait dans cet hôtel, demandait une chambre au midi et choisissait au second étage le numéro 130 qui était libre depuis le matin. Cette chambre était séparée du numéro 129 par une double porte. À peine seule, Clarisse écarta le rideau qui masquait le premier battant, tira sans bruit le verrou et colla son oreille contre le second battant. « Il est ici, pensa-t-elle, il s'habille pour aller au cercle, comme hier. » Lorsque son voisin fut sorti, elle passa dans le couloir et, profitant d'une seconde où ce couloir était désert, elle s'approcha de la porte du numéro 129. La porte était fermée à clé. Toute la soirée, elle attendit le retour du voisin et ne se coucha qu'à 2 heures. Le dimanche matin, elle recommença d'écouter. À 11 heures, le voisin s'en alla. Cette fois, il laissait la clé sur la porte du couloir. En hâte, Clarisse tourna cette clé, entra résolument, se dirigea vers la porte de communication. Puis ayant soulevé le rideau et tiré le verrou, elle se trouva chez elle. Au bout de quelques minutes, elle entendit deux bonnes qui faisaient la chambre du voisin. Elle patienta jusqu'à ce qu'elles fussent parties. Alors, sûre de n'être pas dérangée, elle se glissa de nouveau dans l'autre chambre. L'émotion la contraignit à s'appuyer sur un fauteuil. Après des jours et des nuits de poursuites acharnées, après des alternatives d'espoir ou d'angoisse, elle parvenait enfin à s'introduire dans une chambre habitée par Daubrecq. Elle allait pouvoir chercher à son aise, et si elle ne découvrait pas le bouchon de cristal, elle pourrait tout au moins cacher dans l'intervalle des deux portes de communication et derrière la tenture, voir Daubrecq épier ses gestes et surprendre son secret. Elle chercha. Un sac de voyage attira qu'elle réussit à ouvrir, mais où ses investigations furent inutiles. Elle dérangea les casiers d'une malle et les poches d'une valise. Elle fouilla l'armoire, le secrétaire, la salle de bain, la penderie, toutes les tables et tous les meubles, rien. Elle tressaillit en apercevant sur le balcon un chiffon de papier jeté là comme au hasard. « Est-ce que par une ruse de Daubrecq, pensa Clarisse, ce chiffon de papier ne contiendrait pas ?»« Non !» fit une voix derrière elle au moment où elle posait la main sur l'espagnolette. Se retournant, elle vit Daubrecq. Elle n'eut point d'étonnement, ni d'effroi, ni même de gêne à se trouver en face de lui. Elle souffrait trop depuis quelques mois, pour s'inquiéter de ce que Daubrecq pouvait penser d'elle ou dire en la surprenant ainsi en flagrant délit d'espionnage. Elle s'assit avec accablement. Il ricana. « Non, il y a erreur, cher ami. Comme disent les enfants, vous ne brûlez pas du tout. Ah, mais pas du tout. Et c'est si facile. Dois-je vous aider ? À côté de vous, cher ami, sur ce petit guéridon ? « Que diable, il n'y a pourtant pas grand-chose sur ce guéridon. De quoi lire, de quoi écrire, de quoi fumer, de quoi manger, c'est tout. Voulez-vous un de ces fruits confits ? Sans doute vous réservez-vous pour le repas plus substantiel que j'ai commandé. » Clarisse ne répondit point. Elle semblait ne pas même écouter ce qu'il disait, comme si elle eût attendu les autres paroles plus graves, celles-là, qu'il ne pouvait manquer de prononcer. Il débarrassa le guéridon de tous les objets qui l'encombraient et les mit sur la cheminée. Puis il sonna. Un maître d'hôtel vint. Il lui dit « Le déjeuner que j'ai commandé n'est prêt ?»« Oui, monsieur. »« Il y a deux couverts, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. » « Et du champagne, oui, monsieur. »« De l'estradrail, oui, monsieur. » Un autre domestique apporta un plateau et disposa en effet sur le guéridon deux couverts, un déjeuner froid, des fruits et dans un seau de glace une bouteille de champagne. Puis les deux domestiques se retirèrent. « À table, chère madame, comme vous le voyez, j'avais pensé à vous et votre couvert était mis. » Et sans paraître remarquer que Clarisse ne semblait nullement prête à faire honneur à son invitation, il s'assit et commença de manger tout en continuant. « Ma foi, oui, j'espérais bien que vous finiriez par me consentir à cet tête-à-tête. Depuis bientôt 8 jours que vous m'entourez de votre surveillance assidue, je me disais, voyons, qu'est-ce qu'elle préfère? Le champagne doux, le champagne sec, l'extra dry? Vraiment, j'étais perplexe. Depuis notre départ de Paris, surtout. J'avais perdu votre trace, c'est-à-dire que je craignais bien que vous n'eussiez perdu la mienne et renoncé à cette poursuite qui m'était si agréable. Vos jolis yeux noirs, si brillants de haine, sous vos cheveux un peu gris, me manquaient dans mes promenades. Mais ce matin, j'ai compris. La chambre contiguë à celle-ci était enfin libre et mon amie Clarisse avait pu s'installer, comment dirais-je, à mon chevet. Dès lors, j'étais tranquille. En rentrant ici, au lieu de déjeuner au restaurant, selon mon habitude, je comptais bien vous trouver en train de ranger mes petites affaires à votre guise et suivant vos goûts particuliers. D'où ma commande de deux couverts, un pour votre serviteur et l'autre pour sa belle amie. Elle l'écoutait maintenant et avec quelle terreur. Ainsi donc Daubrecq se savait espionné. Ainsi donc depuis 8 jours il se jouait d'elle et de toutes ses manœuvres. À voix basse, le regard anxieux, elle lui dit oh, « C'est exprès, n'est-ce pas? Vous n'êtes parti que pour m'entraîner. »« Oui, » fit-il. « Mais pourquoi, pourquoi ?»« Oh, vous le demandez, cher ami, » dit Daubrecq avec son petit gloussement de joie. Elle se leva de sa chaise à moitié et penchée vers lui, elle pensa, comme elle y pensait chaque fois, au meurtre qu'elle pouvait commettre, qu'elle allait commettre. Un coup de revolver et la bête odieuse serait abattue. Elle glissa lentement sa main vers l'arme que contenait son corsage. Daubrecq prononça « Oh, une seconde, cher ami, vous tirerez tout à l'heure, mais je vous supplie auparavant de lire cette dépêche que je viens de recevoir. » Elle hésitait, ne sachant quel piège il lui tendait, mais il précisa, en sortant de sa poche une feuille bleue. « Oh, cela concerne votre fils. »« Gilbert ?» dit-elle bouleversée. « Oui, Gilbert, tenez, lisez. » Elle poussa un hurlement d'épouvante. Elle avait lu « Exécution aura lieu mardi. » Et tout de suite, elle cria en se jetant sur Daubrecq. « Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge pour m'affoler. Oh, je vous connais, vous êtes capable de tout. Mais avouez donc, c'est pas pour mardi, n'est-ce pas? Dans 2 jours, non, 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 moi je vous dis que nous n'avons encore 4 jours, 5 jours même pour le sauver. Mais avouez-le donc. » Elle n'avait plus de force, épuisée par cet accès de révolte, et sa voix n'émettait plus que des sons inarticulés. Il la contempla un instant, puis il se versa une coupe de champagne qu'il avala d'un trait. Ayant fait quelques pas de droite à gauche, il revint auprès d'elle et il lui dit « Écoute-moi, Clarisse. » L'insulte de ce tutoiement la fit tressaillir d'une énergie imprévue. Elle se redressa et indignée, haletante. « je vous défends de me parler ainsi. C'est un outrage que je n'accepte pas. Quel misérable vous êtes !» Il haussa les épaules et reprit. Allons, je vois que vous n'êtes pas encore tout à fait au point. Cela vient sans doute de ce qu'il vous reste l'espérance d'un secours. Braville, peut-être. Cet excellent Braville dont vous êtes le bras droit. Ma bonne amie, vous tombez mal. Figurez-vous que Braville est compromis dans l'affaire du canal. Pas directement, enfin, c'est-à-dire que son nom n'est pas sur la liste des 27, mais il s'y trouve sous le nom d'un de ses amis, l'ancien député Vorenglade, Stanislas Vorenglade, son homme de paille, paraît-il, un pauvre diable, que je laissais tranquille, et pour cause. J'ignorais tout cela. Et puis voilà-t-il pas que l'on m'annonce ce matin par lettre l'existence d'un paquet de documents qui prouvent la complicité de votre sieur Praville. Et qu'est-ce qui m'annonce cela? Vorenglade lui-même. Oui, Vorenglade, qui, las de traîner sa misère, veut faire chanter Praville, au risque d'être arrêté lui aussi, et qui ne demande qu'à s'entendre avec moi. Et Praville saute, ah ah! Elle est bonne, celle-là! Et je vous jure qu'il va sauter, le brigand. Crebleu, depuis le temps qu'il m'embête. Ah, Praville, mon vieux, tu l'as pas volé. Il se frottait les mains, heureux de cette vengeance nouvelle qui s'annonçait. Et il reprit. Vous le voyez, ma chère Clarisse, de ce côté-là, rien à faire. Alors quoi? À quelle racine vous raccrochez? Ah, mais j'oubliais, monsieur Arsène Lupin. Monsieur Grognard, monsieur Lemalu, un peu. Vous avouerez que ces messieurs n'ont pas été brillants, et que toutes leurs prouesses ne m'ont pas empêché de suivre mon petit bonhomme de chemin. Que voulez-vous? Ces gens-là s'imaginent qu'ils n'ont pas leur pareil. Quand ils rencontrent un adversaire qui ne s'épate pas comme moi, ça les change. Et ils entassent gaffe sur gaffe, tout en croyant qu'ils le roulent. De la belle manière. Ah, collégien, va! Enfin, tout de même, puisque vous avez encore quelque illusion sur le susdit Lupin, puisque vous comptez sur ce pauvre hère pour m'écraser et pour opérer un miracle en faveur de l'innocent Gilbert, allons-y, soufflons sur cette illusion. Ah, Lupin, Seigneur Dieu, elle croit en Lupin. Elle met en Lupin ses dernières espérances. Lupin, attends un peu que je te dégonfle, illustre fantoche. Il saisit le récepteur du téléphone qui le reliait au poste principal de l'hôtel et prononça. C'est de la part du numéro 129, mademoiselle. Je vous prierai de faire monter la personne qui est assise en face de votre bureau. Allô? Oui, mademoiselle, un monsieur avec un chapeau mou de couleur grise. Il est prévenu. Je vous remercie, mademoiselle. Ayant raccroché le récepteur, il se tourna vers Clarisse. Oh, soyez sans crainte, monsieur, la discrétion même. C'est d'ailleurs la devise de son emploi, célérité et discrétion. Ancien agent de la sûreté, il m'a rendu déjà plusieurs services, entre autres celui de vous suivre pendant que vous me suiviez. Si depuis notre arrivée dans le midi, il s'est moins occupé de vous, c'est qu'il était plus occupé par ailleurs. Entrez, Jacob! Lui-même, il ouvrit la porte, et un monsieur mince, petit, à moustache rousse, entra. Jacob, ayez l'obligeance de dire à madame, en quelques paroles brèves, ce que vous avez fait depuis mercredi soir, jour où, la laissant monter gare de Lyon dans le train de luxe qui m'emportait vers le midi, vous êtes resté, vous, sur le quai de cette même gare. Bien entendu, je vous demande l'emploi de votre temps qu'en ce qui concerne madame et la mission dont je vous ai chargé. Le sieur Jacob alla chercher dans la poche intérieure de son veston un petit carnet qu'il feuilleta et dont il lut, du ton que l'on prend pour lire un rapport, les pages suivantes. Mercredi soir, 7h15. Gare de Lyon, j'attends ces messieurs, Grognard et le Balu. Ils arrivent avec un troisième personnage que je ne connais pas encore, mais qui ne peut être que Monsieur Nicole. Moyennant 10 francs, j'ai emprunté la blouse et la casquette d'un homme d'équipe et abordé les messieurs et leur ai dit de la part d'une dame qu'on s'en allait à Monte-Carlo et ensuite téléphoner au domestique de l'hôtel Franklin. Toutes les dépêches envoyées à son patron et renvoyées par le dit patron seront lues par le dit domestique et au besoin interceptées. Jeudi, Monte-Carlo, les trois messieurs fouillent les hôtels. Vendredi, excursion rapide à la Turbie, au Cap d'Ail, au Cap Martin. Monsieur Daubrecq me téléphone. Il juge plus prudent d'expédier ces messieurs en Italie. L'heure fait donc adresser par le domestique de l'hôtel Franklin une dépêche leur donnant rendez-vous à San Remo. Samedi, San Remo, quai de la gare, moyennant 10 francs, j'emprunte la casquette du portier de l'ambassadeur Palace. Arrivée de ces trois messieurs, on s'aborde, leur explique de la part d'une voyageuse, Madame Mergy, qu'on va jusqu'à Gênes, hôtel continental. Hésitation de ces messieurs, Monsieur Nicole veut descendre. On le retient, le train démarre. Bonne chance, messieurs. Une heure après, je reprends un train pour la France et m'arrête à Nice, où j'attends les ordres nouveaux. Le sieur Jacob ferma son carnet et conclut. C'est tout, la journée d'aujourd'hui ne sera inscrite que ce soir. Oh, vous pouvez l'inscrire dès maintenant, monsieur Jacob. Midi, monsieur Daubrecq m'envoie à la compagnie des wagons-lits. Je retiens de sleeping pour Paris au train de 2h48 et les envoie à monsieur Daubrecq par un express. Ensuite, je prends le train de 12h58 pour Vintimille, station frontière où je passe la journée dans la gare, à surveiller tous les voyageurs entrant en France. Si messieurs Nicole, Grenière et Le Balu avaient l'idée de quitter l'Italie, de revenir par Nice et de retourner à Paris, j'ai ordre de télégraphier à la préfecture de police que le sieur Arsène Lupin et de ses complices sont dans le train numéro X. Et tout en parlant, Daubrecq avait conduit le sieur Jacob jusqu'à la porte. Il la referma sur lui, tourna la clé, poussa le verrou. S'approchant de Clarisse, il lui dit « Maintenant, écoute-moi, Clarisse. » Cette fois, elle ne protesta point. Que faire contre un tel ennemi si puissant, si ingénieux, qui prévoyait jusqu'au moindre détail et qui se jouait de ses adversaires avec tant de désinvolture? Si elle avait encore pu espérer dans l'intervention de Lupin, le pouvait-elle à 7 heures, qu'il errait en Italie à la poursuite de fantômes? Elle comprenait enfin pourquoi 3 télégrammes envoyés par elle à l'hôtel Franklin était resté sans réponse. Daubrecq était là, dans l'ombre, qui veillait, qui faisait le vide autour d'elle, qui la séparait de ses compagnons de lutte, qui l'amenait, peu à peu, prisonnière et vaincue, entre les 4 murs de cette chambre. Elle sentit sa faiblesse. Elle était à la merci du monstre. Il fallait se taire et se résigner. Et il répéta avec une joie mauvaise « Écoute-moi, Clarisse, écoute les paroles irrémédiables que je vais prononcer, écoute-les bien. Il est midi, or c'est à 2h48 que part le dernier train, tu entends le dernier train qui peut me conduire à Paris demain lundi, attends pour que je sauve ton fils. Les trains de luxe sont complets, donc c'est à 2h48. Il faut que je parte. Dois-je partir? Oui. Nos sleepings sont retenus. Tu m'accompagnes? Oui. Tu connais les conditions de mon intervention? Oui. Tu acceptes? Oui. Tu seras ma femme? Oui. Ah, ces réponses horribles! La malheureuse les fit dans une sorte de torpeur affreuse, en refusant même de comprendre à quoi elle s'engageait. Qu'il partît d'abord, qu'il écartât de Gilbert la machine sanglante dont la vision la hantait jour et nuit. Et puis, il arriverait ce qui devrait arriver. Il éclata de rire. Ah, ah, coquine, c'est bientôt dit. Tu es prête à tout promettre, hein? L'essentiel, c'est de sauver Gilbert, n'est-ce pas? Et après, quand le naïf Daubrec offrira sa bague de fiançailles, Bernique, on se fichera de lui. Allons, voyons, assez de paroles vagues. Pas de promesses qu'on ne tient pas, des faits immédiats. Et nettement, assis tout près d'elle, il articula. Moi, voici ce que je propose, ce qui doit être, ce qui sera. Je demanderai, ou plutôt, j'exigerai, non pas encore la grâce de Gilbert, mais un délai, un sursis à l'exécution, un sursis de 3 ou 4 semaines. On inventera n'importe quel prétexte, ça ne me regarde pas. Et quand Madame Mergy sera devenue Madame Daubrec, alors seulement, je réclamerai la grâce, c'est-à-dire la substitution de peine. Eh, sois tranquille, on me l'accordera. J'accepte, balbutia-t-elle. Il rit de nouveau. Oui, tu acceptes parce que cela se passera dans 1 mois. Et d'ici là, tu comptes bien trouver quelque ruse, un secours quelconque, Monsieur Arsène Lupin. Mais je jure sur la tête de mon fils, la tête de ton fils, mais ma pauvre petite. Tu te damnerais pour qu'elle ne tombe pas. Ah oh, oui, murmura-t-elle en frissonnant, je vendrai mon âme avec joie. Il se glissa contre elle et la voix basse. Clarisse, c'est pas ton âme que je te demande. Voilà plus de 20 ans que toute ma vie tourne autour de cet amour. Tu es la seule femme que j'ai aimée. Déteste-moi, exècre-moi, ça m'est indifférent, mais ne me repousse pas. Attendre encore 1 mois? Non, Clarisse, il y a trop d'années que j'attends. Il osa lui toucher la main. Clarisse eut un tel geste de dégoût qu'il fut pris de rage et s'écria. Ah, je te jure, Dieu la belle, que le bourreau n'y mettra pas tant de forme quand il empoignera ton fils. Et tu fais des manières, mais pense donc. Cela se passera dans 40 heures. 40 heures, pas davantage. Et tu hésites, et tu as des scrupules, alors qu'il s'agit de ton fils. Allons, voyons, pas de pleurnicherie, pas de sentimentalité stupide. Regarde les choses bien en face. D'après ton serment, tu es ma femme, tu es ma fiancée, dès maintenant. Clarisse, Clarisse, donne-moi tes lèvres. Elle le repoussait à peine. Le bras tendu mais défaillante. Et avec un cynisme où se révélait sa nature abominable, Daubrec, entremêlant les paroles cruelles et les mots de passion, continuait. Sauve ton fils, pense au dernier matin, à la toilette funèbre, à la chemise qu'on échancre, aux cheveux que l'on coupe. Clarisse, Clarisse, je le sauverai, sois-en sûre. Toute ma vie t'appartiendra, Clarisse. Elle ne résistait plus. C'était fini. Les lèvres de l'homme immonde allaient toucher les siennes, et il fallait qu'il en fût ainsi, et rien ne pouvait faire que cela ne fût pas. C'était son devoir d'obéir aux ordres du destin. Elle le savait depuis longtemps. Elle comprit, et en elle-même, les yeux fermés, pour ne pas voir l'ignoble face qui se haussait vers la sienne, elle répétait: Mon fils, mon pauvre fils. Quelques secondes s'écoulèrent, 10, 20 peut-être. Daubrec ne bougeait plus. Daubrec ne parlait plus. Et elle s'étonna de ce grand silence et de cet apaisement subit. Au dernier instant, le monstre avait-il quelque remords? Elle leva les paupières. Le spectacle qui s'offrit à elle la frappa de stupeur. Au lieu de la face grimaçante qu'elle s'attendait à voir, elle aperçut un visage immobile, méconnaissable, tordu par une expression d'épouvante extrême, et dont les yeux, invisibles sous le double obstacle des lunettes, semblaient regarder plus haut que le fauteuil où elle était prostrée. Clarisse se détourna. Deux canons de revolver braqués sur Daubrecq émergeaient à droite un peu au-dessus du fauteuil. Elle ne vit que cela, ces deux revolvers énormes et redoutables que serraient deux poings crispés. Elle ne vit que cela et aussi la figure de Daubrecq que la peur décolorait peu à peu jusqu'à la rendre livide. Et presque en même temps, derrière lui, quelqu'un se glissa, qui surgit brutalement, lui jeta l'un de ses bras autour du cou, la renversa avec une violence incroyable et lui appliqua sur le visage un masque d'ouate et d'étoffe. Une odeur soudaine de chloroforme se dégagea. Clarisse avait reconnu M. Nicole. « À moi, grognard » cria-t-il, « à moi, la velue ! Lâchez vos revolvers, je le tiens. C'est plus qu'une loque, allez, attachez-le. » Daubrecq, en effet, se repliait sur lui-même et tombait à genoux comme un pantin désarticulé. Sous l'action du chloroforme, la brute formidable s'effondrait, inoffensive et ridicule. Grognard et le balu le roulèrent dans une des couvertures du lit et le ficelèrent solidement. « ça y est !» clama Lupin en se relevant d'un bond. Et par un retour de joie brusque, il se mit à danser une gigue désordonnée au milieu de la pièce, une gigue où il y avait du cancan et des contorsions de machitch et des pirouettes de derviche tourneur et des acrobaties de clown et des zigzags d'ivrogne. Et il annonçait, comme des numéros de music-hall, « La danse du prisonnier, le chahut du captif, fantaisie sur le cadavre d'un représentant du peuple, la polka du chloroforme, le double boston des lunettes vaincues, olé olé, le fandango du maître chanteur, et puis la danse de l'ours, et puis la tyrolienne, laïlou laïlou la, allons allons enfants de la patrie, zim bom bom, zim bom bom. » Toute sa nature de Gavroche, tous ses instincts d'allégresse, étouffés depuis si longtemps par l'anxiété et par les défaites successives, tout cela faisait irruption, éclatait en accès de rire, en sursaut de verve, en un besoin pittoresque d'exubérance et de tumulte enfantin. Il esquissa un dernier entrechat, tourna autour de la chambre en faisant la roue, et finalement se planta debout, les deux poings sur les hanches, et un pied sur le corps inerte de Daubrecq. « Tableau allégorique, » annonça-t-il, « l'archange de la vertu écrasant l'hydre du vice. » Et c'était d'autant plus comique que Lupin apparaissait sous les espèces de M. Nicole, avec son masque et ses vêtements de répétiteur étriqués, compassés et comme gênés dans ses entournures. Un triste sourire éclaira le visage de Madame Mergy, son premier sourire depuis des mois et des mois. Mais tout de suite, reprise par la réalité, elle implora « Je vous en supplie, pensons à Gilbert !» Il courut à elle, la saisit à deux bras, et dans un mouvement spontané, si ingénu qu'elle ne pouvait qu'en rire, il lui appliqua sur les joues deux baisers sonores. « Tiens, la dame, voilà le baiser d'un honnête homme. Au lieu de Daubrecq, c'est moi qui t'embrasse. Un mot de plus et je recommence, et puis je te tutoie. Fâche-toi si tu veux, ah, ce que je suis content. » Il mit un genou à terre devant elle et respectueusement. « Non, je vous demande pardon, madame, la crise est finie. » Et se relevant de nouveau au narquois, il continua, tandis que Clarisse se demandait où il voulait en venir, il continua. « Madame désire, oh, la grâce de son fils, peut-être, à le juger. Madame, j'ai l'honneur de vous accorder la grâce de votre fils, la commutation de sa peine en celle des travaux à perpétuité. Et comme dénouement son évasion prochaine, c'est convenu, hein, grognard ? Convenu, le balu ? On s'embarque pour Nouméa avant le gosse et on prépare tout. Ah, respectable Nomrek, nous t'en devons une fière chandelle. Et c'est bien mal te récompenser. Mais aussi, avoue que tu en prenais partout à ton aise. Comment traiter ce bon monsieur Lupin de collégien, de pauvre hère, et cela pendant qu'il écoute à ta porte? Le traiter d'illustre fantoche, dis donc. Il me semble que l'illustre fantoche n'a pas mal manœuvré, et que tu n'en es même pas très large, représentant du peuple. Non, mais quelle binette, quoi! Qu'est-ce que tu demandes? Oh, une pastille de Vichy? Non. Oh, une dernière pipe, peut-être? Voilà. Il prit une des pipes sur la cheminée, s'inclina vers le captif, écarta son masque, et entre ses dents introduisit le bout d'ambre. Aspire, mon vieux, aspire. Ouais. Est-ce que tu as une drôle de tête avec ton tampon sur le nez et ton brûle-galot au bec? Allons, aspire, crebleu! Oh, mais j'oubliais de la bourrer, ta pipe. Où est ton tabac? Ton mari l'a préféré. Ah, voici. Il saisit sur la cheminée un paquet jaune non entamé dont il déchira la bande. Le tabac de monsieur. Ah, attention, l'heure est solennelle. Bourrer la pipe de monsieur, fichtre, quel bonheur! Qu'on suive bien mes gestes. Rien dans les mains, rien dans les poches. Il ouvrit le paquet. Et à l'aide de son index et de son pouce, lentement, délicatement, comme un prestidigitateur qui opère en présence d'un public ébahi, et qui, le sourire aux lèvres, les coudes arrondis, les manchettes relevées, achève son tour de passe-passe, il retira d'entre les brins de tabac un objet brillant qu'il offrit au spectateur. Clarisse poussa un cri. C'était le bouchon de cristal. Elle se précipita sur Lupin et le lui arracha. C'est ça, proféra-t-elle, toute fiévreuse. Celui-là n'a pas des raflures à la tige. Et puis tenez, cette ligne qui le scinde par le milieu, à l'endroit où se terminent les facettes d'or. C'est ça, il se dévisse. Oh, mon Dieu, je n'ai plus de force. Elle tremblait tellement que Lupin lui reprit le bouchon et le dévissa lui-même. L'intérieur de la tête était creux, et dans ce creux, il y avait un morceau de papier roulé en forme de boulette. Le papier pelure, dit-il tout bas, ému lui aussi et les mains frémissantes. Il y eut un grand silence. Tous les quatre, ils sentirent leur cœur prêt à se rompre, et ils avaient peur de ce qui allait se passer. Je vous en prie, balbutia Clarisse. Lupin déplia le papier. Des noms étaient inscrits les uns sous les autres. Il y en avait 27, les 27 noms de la fameuse liste. Langeroux, de Chaumont, Vorenglade, d'Albufex, Lesbagues, Victoria Mergy, etc. Et en dessous, la signature du président du conseil d'administration du canal français des deux mers, la signature couleur du sang. Lupin consulta sa montre. 1 heure moins le quart, dit-il, nous avons 20 bonnes minutes, mangeons. Mais, fit Clarisse qui s'affolait déjà, n'oubliez pas. Il déclara simplement: Bon, je meurs de faim. Il s'assit devant le guéridon, se coupa une large tranche de pâté et dit à ses complices: Eh les grognards, le malus, on se restaure? C'est pas de refus, patron. Alors faites vite, les enfants. Et par là-dessus, allez, un verre de champagne. C'est le chloroformé qui régale. À ta santé, Dobrec. Champagne doux, champagne sec, extra dry.